Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Pour cette dernière de la semaine, ben c'est toute une nouvelle qui est tombée là à quelques minutes à peine après qu'on soit sorti des ondes hier, l'enregistrement du dernier épisode. Brian Mulroney, l'ancien premier ministre du Canada, chef d'État, homme d'État extraordinaire aussi, qui est décédé à l'âge de 84 ans. Une nouvelle qui a fait le tour du monde puis qui a eu évidemment particulièrement un effet choc ici au Canada. On savait qu'il était malade depuis un bon moment quand même.
Ouais, moi je l'avais vu dans un événement, un hommage que lui avait rendu l'Université Laval, je pense que c'est au mois de novembre, là, enfin l'automne. Et ben c'est sûr qu'on le sentait, on le voyait affaibli, là. On le voyait clairement. Il était quand même monté sur scène. Assis, aidé pour monter. Puis sur scène, il n'avait pas parlé au lutrin, il avait parlé assis, là, tu sais, à un fauteuil. Mais une fois installé, là, son propos était très, très, très clair. Il fait rire la salle. Vraiment, il était allumé, il était content d'être là. Et puis, il avait raconté des anecdotes, avait parlé de sa carrière. Mais c'est ça, physiquement, puis il y avait eu un malaise lors d'un voyage de quelques semaines avant, il avait dû être hospitalisé, il remontait ça, mais bon, c'est ça, après, je pense qu'après les fêtes, il y a eu d'autres problèmes de santé, il se sentait plus faible, et Jean Charest racontait que lui, il l'a vu il y a quelques jours, et qu'il lui avait confié, là, Jean Charest disait ça hier soir à LCN, que M. Mulroney avait confié, je pense que je passerai pas l'année. Probablement qu'en dedans de lui, il sentait une faiblesse, il sentait comme un peu la vie le quitter, il sentait que la fin approchait. Peut-être pas à ce point-là, mais il disait, je pense pas que je vais finir l'année.
Ouais. Puis là, t'as souligné quelques points, Mario, qui ont tellement été repris aujourd'hui. Son sens de l'humour. Hein, s'il y a bien quelque chose qui a été repris beaucoup, son sens de l'humour, toujours la blague bien placée avec un discours politique là, percutant.
Ouais, mais c'était tout un tribun, je dirais. L'humour, mais à fond, il maniait toutes les facettes de l'art oratoire. T'sais, l'humour en fait partie.
Le débat,
la séduction, là, une certaine séduction, amener les gens, l'émotion, amener les gens dans l'émotion. T'sais, il s'est pas rendu ou il s'est rendu pour rien, là. Donc, autant, bon, peut-être, oui, au lutrin, peut-être encore plus dans des rencontres privées, où là, il était encore plus, dit-on, à son meilleur. Donc, il l'était au lutrin, là, il l'était au micro, mais dans des rencontres privées. Puis, un jour, on s'est rendu compte que, tu sais, dans le monde, là, avec son côté négociateur, son côté brillant et son côté humain séducteur, il était devenu une influence majeure, là, tu sais.
Ouais, quelqu'un que s'il t'appelait, tu prenais le téléphone, ouais, là, tu répondais.
Tu sais, on a monté comme une grosse affaire, avec raison, l'apartheid comme peut-être le dossier, parce que bon, il a tenu d'un bord un président américain tranquille, mais, tu sais, je sais pas combien de monde ont dit à Margaret Thatcher, là-dessus, Margaret, je pense que tu te trompes.
Ouais.
Faudrait que tu changes d'idée. Je pense que là-dessus, tu regardes mal ça. Là, tu vois pas ça du bon angle. Je pense que tu fais erreur sur ça.
Une femme qui était connue pour être inflexible, quand même.
Inflexible, la femme de la dame de fer. Je suis convaincu qu'il a trouvé les mots, là, qu'il a dit ça de belle façon, puis qu'il a amené ça. Mais quand même, il a quand même fait comprendre. Puis pas juste du dire, puis qu'après ça, elle raccroche, puis qu'elle dit, hey, tu parles moi d'un fantasme, d'un baveux, là. Elle change d'idée.
Oui.
Il fait changer le cours du monde, là. L'apartheid tombe. Tu sais, il y a vraiment, tu dis, un Québécois de Bécomo, devenu premier ministre du Canada, a fait des interventions auprès des gens les plus puissants du monde et a fait changer le cours de l'histoire, point à la ligne.
Oui, c'est pas des petits accomplissements
c'est majeur.
Qui ont marqué la carrière de Brian Mulroney, puis ça a été repris dans les journaux du monde entier aujourd'hui, Mario,
oui,
justement,
vraiment.
Au Royaume-Uni, The Guardian, qui reprenait toutes sortes de faits d'armes de la vie de M. Mulroney. Il y avait de tels Telegraph aussi qui décrivait justement en détail comment il s'était opposé à Margaret Thatcher au sujet de l'apartheid à cette époque-là. Le New York Times aux États-Unis puis le Washington Post qui se sont taris d'éloges là, vraiment là, au niveau de M. Mulroney en parlant d'un tribun extraordinaire, impeccablement coiffé, des costumes, des tailleurs impeccables aussi. Ils ont passé beaucoup de temps sur le côté mode aussi de M. Mulroney à l'époque. Non, vraiment des hommages qui ont fusé de partout. Puis si on revient ici, bien évidemment, ça a été annoncé très rapidement par le premier ministre Justin Trudeau plutôt aujourd'hui, des funérailles d'État qui vont être données à monsieur.
C'est dans l'ordre des choses. Ce qui tombe un peu mal, c'est que la chambre siégeait ce matin, mais c'est le vendredi. La chambre, souvent, le vendredi, ils font des travaux. Les chefs sont généralement plus là. Monsieur Trudeau était à l'extérieur d'Ottawa. Monsieur Poilievre était à l'extérieur d'Ottawa, selon ce que je comprends. Donc là, tu pouvais pas trop faire les hommages. Et donc, ils ont simplement fait un court hommage et suspendu les travaux réguliers de la chambre. Un peu par respect pour Brian Mulroney. Et donc, la Chambre ne siège pas. Ce sont les deux semaines de relâche parlementaire, parce que c'est les semaines de relâche scolaire, puis les parlements ne siègent pas pour donner congé aux élus. Donc, ce sont les deux semaines de relâche parlementaire à Ottawa, ce qui fait qu'ils ne vont se revoir que le 18 mars,
ouais.
Date à laquelle, là, il y aura bon tous les chefs de parti, tout le monde, et les grands hommages à M. Mulroney. Mais c'est juste que c'est ça tombe mal, c'est un peu loin. On parle de date. J'ai réalisé cet avant-midi que le 29 février devient une date dans l'histoire du Canada. C'est qu'hier, M. Mulroney décède le 29 février vers l'heure du souper, 40 ans plus tôt. D'accord, une année bissextile, 1984, le 29 février, c'est la marche dans la neige. C'est la marche dans la neige, celle où Pierre-Elliott Trudeau, son prédécesseur, Pierre-Elliott Trudeau, fait cette fameuse marche dans la neige, il neigeait ce soir-là, et en revenant, décide et annonce, je quitte mes fonctions de premier ministre du Canada et de chef du Parti libéral. Et donc, le 29 février 1984, Pierre-Elliott Trudeau fait ça, et 40 ans plus tard, c'est quand même, c'est frappant, parce que tu sais, un 29 février, il y a juste une fois toutes les 4 ans, 40 ans plus tard, presque à la même heure ou à peu près à la début de soirée, on annonce le décès de celui qui lui a succédé. Il y en a eu un entre les deux, un intérim, là, mais de celui qui, disons, le premier ministre élu qui lui a succédé, Brian Mulroney.
Oui, un parallélisme qui est assez frappant, ouais, 29, merci.
29 février.
Et là, dans tous les témoignages, il y a notre collègue ici, chroniqueur à Cube Radio, qui est également la joute à TVA, là, Luc Lavoie, qui l'a bien connu. Là. C'est un directeur de cabinet là, adjoint auprès de M. Mulroney, devenu un ami proche aussi là, au fil des années, là, très bien connu. Il a raconté à notre collègue Yasmin Abdel-Fadel ici à Cube, plutôt aujourd'hui, des anecdotes. Là, vraiment savoureuse, rigolote, intéressante sur la vie de M. Mulroney. Mais il a aussi ramené, questionné par Yasmine, un pan de la personnalité de cet homme d'État qu'on connaît peut-être un peu moins dans le grand public, ses talents de chanteur, Mario.
On l'avait vu chanter en public avec Ronald Reagan. Il avait chanté avec Ronald Reagan au Château Frontenac, dans le sommet des Irlandais, là, dont les images ont été rejouées et rejouées. Puis il a même enregistré, là, à un moment donné, mais pas pour le public, mais pour ses amis, un album, je pense.
Exactement. Et là, il a pris son téléphone, le clavier ici en studio, puis en collant, là, comme ça, le téléphone dans le micro, nous a fait entendre des extraits, puis vraiment, là, de la musique, on pourrait qualifier ça de crooner, tu sais, des airs romantiques. Je vais te faire écouter ça, Mario, ça vaut la peine.
Allez, qu'est-ce que j'ai? C'est pas normal, me direz-vous.
En français, en anglais.
Accompagné au piano.
Oui, exactement. C'est une vraiment une belle voix. C'est surprenant à entendre. Donc, ça a été, ça faisait partie des anecdotes que Luc Lavoie nous a relatées plutôt aujourd'hui en disant que c'est une confidence que M. Mulroney lui avait fait. Si c'était pas lancé en politique, il aurait aimé être chanteur dans un nightclub. Donc, voilà, c'est une autre belle note.
On aurait perdu quelque chose en politique.
On aurait perdu quelque chose en politique. C'est une belle manière de le dire, Mario.
Tout savoir en 24 minutes.
Dans les autres affaires courantes, on a eu droit à du mouvement sur la scène judiciaire, particulièrement dans ce qui entoure le conflit armé entre les gangs criminalisés des Hells Angels et du Blood Family Mafia. Et là, grand coup qui a été porté, non pas par la police du Québec, mais par la police du Portugal, qui ont retrouvé le bras droit de Dave Pick Turmel, le caïd en charge de ce groupe criminalisé-là. C'est son bras droit, donc, Rubens Denis, qui a été arrêté dans un hôtel où il se cachait à Lisbonne. Parce que ça fait déjà un petit moment qu'on a émis un mandat d'arrêt du côté des autorités au Portugal pour essayer de retrouver les deux hommes qui se cachaient quelque part. Là. Donc, on sait toujours pas où est Dave Pick Turmel, mais il y a quand même là, un drapeau rouge qui est levé sur le site d'Interpol.
Il doit être un petit peu nerveux, là.
Oui, parce que si t'arrêtes son bras droit, une personne de confiance, ça veut dire que lui doit pas être excessivement loin.
Ben ouais, puis lui doit se dire, est-ce qu'ils ont communiqué ensemble par téléphone au cours des derniers jours? Là, lui, à un moment donné, tu sais plus là, qu'est-ce que la police a, qu'est-ce qu'ils ont fait comme recherche de renseignements. J'ai l'impression qu'il doit être comme nerveux.
Ouais, puis surtout qu'il y a un mandat, là, on appelle ça une mention rouge, notice rouge sur le site d'Interpol. Là. Interpol qui est la police, justement, là, qui s'occupe là interétatique là, des affaires criminelles dans l'Europe au grand complet. Et là, ben, en l'ayant arrêté, le problème, par contre, c'est que là, il va falloir l'extrader. Hein, des procédures d'extradition qui ont été enclenchées presque immédiatement donc pour ramener ici là, Rubens Denis. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça peut prendre, Mario. Là, et
ouais,
ça pourrait être
long. Que ses avocats, lui, vont s'y opposer.
Oui, et là, ben, c'est des procédures. C'est une semaine, c'est un mois, un an, plus que ça. Ça va être à voir là, combien de temps ça va prendre pour qu'on puisse se rapatrier.
Sauf que dans l'intervalle, il est incarcéré là-bas.
Exactement. Et là, ça, c'est la bonne nouvelle, ouais. Quelque part. Là, c'est qu'il est mis hors d'état de nuire pour l'instant. On dit que c'est un gros coup quand même là, qui a été frappé de ce côté-là. Ça vient, encore une fois, enlever des plumes aux gangs du Blood Family Mafia.
Parce que les policiers, dans la conférence de presse où ils ont fait le bilan hier sur l'ensemble de l'opération, ils ont vraiment là, rien, mais rien voulu dire sur tout ce qui est international. C'est-à-dire, regarde, ça, c'est super secret. Je comprends que c'était une conférence de presse de la SQ. Je crois comprendre que dès que tu vas à l'international, c'est la GRC, là, tu sais, qui est un peu le lien avec Interpol. C'est entre pays. Et donc, on n'a rien voulu dire là-dessus. Ben, on a une arrestation le lendemain. Ça veut dire, ils n'ont rien voulu dire. C'est pas parce qu'il se fait rien, là. Il y a des mandats côté Interpol. Il y a des choses qui sont en cours,
là. Ouais, c'est certain que sur ce dossier-là, Mario, du Blood Family Mafia, on peut pas dire que la police, là, s'est croisé les bras là-dessus.
Non,
il y a beaucoup de résultats.
Il y a eu de l'action depuis une semaine.
Tout savoir en 24 minutes.
Avec toute l'actualité qui est frénétique, on a presque oublié qu'hier, c'était le jugement sur la loi 21 qui est tombé, qui a donné raison, je le rappelle, au Québec sur toute la ligne, même rétabli donc les mesures aux commissions scolaires anglophones. Et là, on a eu toutes sortes de réactions politiques qui ont donné le ton depuis hier. Et François Legault, le premier ministre, est revenu encore une fois, a été questionné à nouveau. Parce qu'il n'avait pas vraiment pris les questions des journalistes hier. C'était contenté de faire un court point de presse, avait expliqué que c'est une grande victoire pour le Québec. Mais revenu en parlant, cette fois-ci, de manque de respect du gouvernement Trudeau de vouloir continuer à poursuivre sa contestation de la loi sur la laïcité de l'État, donc la loi 21. Est-ce que c'est un manque de respect ce que là on est dans la chose?
Moi, je suis d'accord avec. Moi, j'avoue qu'hier, j'ai été choqué. C'est un manque de respect. Justin Trudeau avait annoncé déjà, là, avant même, il s'est fait réélire en ayant annoncé qu'il allait, s'il y avait une contestation à la Cour suprême, y participer et envoyer ses avocats. Moi, ce que j'ai trouvé horrible, c'est qu'hier, le ministre de la Justice du Canada. Pensons-y deux instants. T'es ministre de la Justice du Canada.
Oui.
La Cour d'appel du Québec, vous êtes, je comprends que t'as la Cour suprême qui est ton plus gros tribunal dans le pays, là, mais les cours d'appel des provinces, c'est ce qu'il y a juste en bas.
C'est top 2. Là.
Fait qu'à la limite, la plus grosse province, ça serait l'Ontario, avec le deuxième tribunal, on pourrait dire en nombre, en grosseur, là, c'est la Cour d'appel de l'Ontario, puis après ça, c'est la Cour d'appel du Québec. Bon. La Cour d'appel du Québec se prononce, là, puis fait un jugement de 300 pages. Que tous les juristes qui ont lu, là, moi je peux pas juger, mais les profs de droit constitutionnel disent « Wow! »
C'est béton.
Solide, argumenté, fouillé. T'sais, ils ont travaillé un an là, pour rédiger un jugement de 300 pages. Est-ce que c'est logique que le ministre de la Justice du Canada soit déjà en train de parler d'un appel à la Cour suprême comme d'un automatisme? Excuse-moi, l'appel, là, c'est pas automatique. T'es supposé lire le jugement. Toi, t'es... Je comprends qu'un simple citoyen frustré peut dire « Ah, moi, je vais aller en appel. » Mais le ministre de la Justice du pays,
oui.
Il serait pas censé lui dire « Bon, ben, je vais prendre connaissance de ce jugement, voir ce que les juges... Je suis ministre de la Justice, des juges, là. Qu'est-ce qu'ils disent dans le jugement? »
Ces gens qui travaillent sous moi, dans mon ministère, dans des postes prestigieux.
Ouais, ben, c'est pas son ministère, c'est un peu un bras parallèle, mais quand même, c'est ça quand même. Ils travaillent pour la société, dans le ministère de la Justice. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les juges de la Cour d'appel? Je vais aller lire ça, voir est-ce qu'il y a motif d'appel, est-ce que... Fait que j'ai trouvé que ça faisait très... peu de respect pour les juges, très politique. Nous autres, on est contre le Québec, on est contre la loi sur la laïcité. Puis peu importe ce qui est dans le jugement, si quelqu'un veut contester, nous autres, on va lancer nos avocats dans l'arène. J'ai pas aimé ça du tout et je suis assez d'accord avec François Legault que c'est un manque de respect. Même si au fond on le sait là, que Justin Trudeau il est contre ça, ben, je suis quasiment à dire au moins fais semblant. Mettons que t'es convaincu que tu vas le contester pareil. Fais au moins semblant d'avoir du respect pour les juges qui viennent de te rédiger 300 pages. Là. Trois juges, 300 pages de contenu bien argumenté. Tu lis même pas ça, tu dis, ah non, ce jugement-là, il fait pas notre affaire, là. On conteste, on est prêt pour la contestation. J'ai trouvé ça loufoque.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
Il y a un départ également hier qui est passé un peu sous le radar puis qui a fait des remous aujourd'hui. C'est Jocelyn Thibault qui quitte son poste là, 2 ans et demi seulement après être devenu l'homme à la tête de Hockey Québec, hein, une organisation qui avait des problèmes là, à l'arrivée de M. Thibault. On évoquait déjà à l'époque un climat toxique à l'interne, qu'on avait de la difficulté à s'entendre avec tous les bras régionaux de la fédération. Ouais.
Plus, il y a des problèmes dans le hockey lui-même, avec les arbitres, les arénas, le comportement. Il y a toute une série de problèmes latents. Là.
Ouais, on s'entend qu'on est à une époque qu'on pourrait qualifier là, de re-questionnement pour ce qui est du hockey, de comment ça se joue, hockey, mais surtout comment on le vit à l'interne là, dans le sport. Puis le climat toxique, comme tu le dis. Et là, ben Jocelyn Thibault qui part, ben ça a été mal reçu, faut le dire, là, par bien des acteurs, dont, entre autres, Claude Fortin, qui est le président du conseil d'administration de la Fédération de hockey Québec, qui est sorti en entrevue un peu plus tôt aujourd'hui pour décrier le fait que M. Thibault, malheureusement, s'en va, que ça le surprend pas, parce que dès son entrée, semblait-il que Jocelyn Thibault aurait dit que lui, ben si il y avait des décisions qui faisaient pas son affaire, s'il y avait des propos qui étaient tenus, qui ne le rejoignaient pas, mais qui étaient prêts à prendre ses affaires puis à quitter. Puis c'est la confrontation, là, les branches réfractaires, vraiment, le régional, qui aimait pas perdre un espèce de pouvoir au profit de la centralisation qu'est Hockey Québec, qui aurait créé de la confrontation puis fait partir un peu Jocelyn Thibault. Puis c'est certain que là, même si on s'entend, Stéphane Auger qui va venir le remplacer, c'est un homme qui semble plein de compétences pour venir faire la chose.
Ancien
arbitre de la Ligue nationale de hockey, effectivement, qui commente parfois à TVA Sport des décisions d'arbitrage, justement. Mais lui risque d'être peut-être plus dans la confrontation, c'est ce que semblait dire Claude Fortin, mais on a quand même tout un mandat devant lui.
Ouais, mais j'ai quand même été heurté et un peu attristé parce que je l'avais interviewé, moi, M. Thibault, Jocelyn Thibault, à l'époque, quand il est arrivé. Puis il était tout feu, tout flamme. Là. Il voulait changer les choses, il voulait améliorer le hockey, il voulait le bien des jeunes. Puis quand je lui reparle ce matin à LCN, tu dis, OK, c'est comme tu vois un gars qui a pogné un nœud, là, qui a pogné un mur. Là.
Ouais.
Et il y a quelque chose de malheureux. Tu dis, bon, il voulait vraiment améliorer le hockey. Bon, puis il parle d'espèces de petites chasses gardées de certaines régions là, qui sont gérées comme des royaumes par des gens qui veulent rien entendre. Bon, des mentalités peut-être un peu dépassées à travers ça. Donc, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas l'expérience, le doigté d'un Brian Mulroney pour faire passer ses affaires, mais en tout cas, il y avait certainement la bonne volonté, lui, là, de faire des choses. Et cette bonne volonté-là, c'est pour une raison ou pour une autre, c'est heurté à une résistance. Donc, c'est malheureux.
Actualité.
Dans les affaires judiciaires, on a souvent parlé dans les dernières années, là, avec la réforme du droit qui se fait au niveau, entre autres, des crimes sexuels. On a beaucoup modifié les manières de faire dans le système, puis on a martelé un message. Hein. Il est jamais trop tard pour poursuivre quelqu'un qui a commis une agression, puis on a un cas en justice qui représente parfaitement tout ça, Mario. Un homme de 87 ans qui vient de se faire condamner à 24 mois, 2 ans de prison pour avoir commis des abus sexuels à répétition envers son plus jeune frère. Mais il y a 65 ans de ça, Mario. 65
donc, il avait 20 ans, 22 ans.
Exactement. On dit que lui était en début vingtaine, puis il y avait son frère, là, donc, qui était là, beaucoup plus jeune que lui. Ça a commencé quand il avait 9 ans, en 1958. Et là, devait dormir dans le lit, dans le même lit que son petit frère. Prenait soin de lui parce que leur mère était très malade, semble-t-il. Et là, commettait des attouchements. On parle de 2 à 3 fois semaine pendant une période de 16 à 24 mois. C'est au-dessus de 300 attouchements là, qui auraient été commis par son frère. Donc, durant cette période-là, qui ont été calculés par la couronne. Et on a décidé d'imposer une prison ferme.
Donc, le poursuivant est un homme dans les 70 ans. Là.
Il a 75 ans. aujourd'hui. 75 ans, la victime qui a éclaté en sanglots aujourd'hui, questionnée là, à la fin de l'audience, justement. Et lui qui expliquait que ça a divisé sa famille parce que des années plus tard, en 2019, il a finalement pris son courage à deux mains, puis après des décennies de silence, a décidé de dénoncer son frère, a écrit une lettre à ses proches, et on a, au terme de 5 longues années de procès, finalement rendu justice, puis le juge l'a bien expliqué, hein, lui, c'est vraiment de la prison ferme, 2 ans, qui a imposé à un homme de 87 ans, là, je le rappelle quand même, d'un âge vénérable, mais qui prend le chemin du pénitencier quand même au travers de tout ça, et donc on a...
Tout savoir en 24.
On a vraiment, bien évidemment, un jugement qui est rendu. Il n'est jamais trop tard pour dénoncer les abus sexuels. C'est un peu le message qui est passé dans cette drôle de cause.
65 ans plus tard, c'est quand même un cas extrême. Là.
Ouais.
C'est un cas assez spécial.
Économie.
On a vu dans les dernières semaines, les derniers mois, beaucoup de nouvelles applications de l'intelligence artificielle. C'est devenu presque un sujet chaque semaine. Nouvelle utilisation, nouvelle manière d'utiliser cet outil-là. Il y en a une qui a été révélée aujourd'hui, qui est assez frappante, je trouve, là, de ses progrès. C'est une fondation, la fondation Fils et Mère du Silence, qui existe au Chili, Mario. Parce que durant les années de la dictature du régime Pinochet, pendant 17 ans, on a déplacer, déporter des enfants à l'étranger pour les faire adopter. Dans un mouvement qui...
Donc, on les prenait aux parents.
On prenait des enfants aux parents. Les chiffres exacts sont tellement difficiles à obtenir depuis ces années-là. On parle d'au moins 2000 enfants qui auraient été envoyés, par exemple, en Suède entre 1971 et 1992. On parle aussi de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, j'en passe, là, des pays d'un peu partout dans le monde. Et ces enlèvements de milliers d'enfants chiliens, on tente encore de les résoudre, même si on se comprend que c'est excessivement difficile. C'est des enfants qui ont été élevés ailleurs, dans une autre langue et tout. Mais pour faire ça, on utilise maintenant l'intelligence artificielle. Depuis 2018, on est sur le cas du côté de la justice chilienne. On veut tenter de retrouver ces enfants-là. Et là, on a pris des photos des parents. Dans quel cas, des fois, c'est des parents qui sont décédés dans les dernières années, mais quand même. Et à partir des photos des parents, on utilise l'intelligence artificielle pour tenter de créer une photo faite à l'ordinateur d'à quoi l'enfant pourrait ressembler. Juste avec le profil génétique, Mario, puis les détails du visage. Et là, on a créé ces photos-là, puis on les distribue dans toutes sortes de langues, dans tous les pays où il y a des enfants qui ont été déportés de cette manière-là, pour essayer, là, avoir l'espoir que quelqu'un se reconnaisse, si on veut, dans une de ces images-là, puis tente de rentrer en contact avec les parents qui se trouvent toujours au Chili. Je trouve que c'est encore une fois la puissance de l'IA à l'ouvrage.
Mais tu sais, les exemples de puissance de l'intelligence artificielle, puis là, je suis du côté positif, parce que je suis bien conscient qu'il y a des dangers aussi. Mais il y a un côté où, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir répondre à ceux qui disent, là, faudrait tout arrêter, tout mettre sur pause, comme pour faire des colloques puis des réflexions, mais... T'sais, cette semaine, on avait exemple les gens de TELUC, l'université, la Téléuniversité au Québec, qui disaient là, on commence à mettre des expériences, nos étudiants, là, ils ont des espèces de tuteurs en ligne, là, un robot conversationnel, tu y poses des questions sur certaines, tu sais, des questions qui sont souvent posées sur des cours, on peut aller chercher dans le livre ou dans le plan de cours les réponses, mais la vitesse avec laquelle ça arrive, tu dis non, mais c'est un train qui s'en vient là dans tous les domaines. Donc, y a personne qui peut arrêter 6 mois pour dire on met tout ça sur la glace, on fait des colloques. Donc, il va falloir toutes les garde-fous. Va falloir les installer. C'est le principe de construire l'avion en vol. Là. Va falloir installer les garde-fous, mais il y a pas une telle chose qu'on arrête tout ça pendant 6 mois, 1 an, parce que là, on n'a pas de garde-fous, il faudra en mettre. Il va falloir les installer au fur et à mesure parce que, je sais pas, moi, je lis tous les jours là, une nouvelle sphère, une nouvelle possibilité. Comme dans tous les domaines, les gens voient comme là, le retrouver des enfants, mais on voit le potentiel de ce qui était impossible parce que ce serait des milliers, des millions de vérifications à faire. Puis tu dis humainement, tu pourras pas y arriver, mais l'intelligence artificielle est tellement rapide qu'elle peut y arriver.
Absolument.
Le monde.
Quel courage, Mario, quel courage pour des milliers et des milliers de Russes qui se sont déplacés aujourd'hui pour assister aux obsèques d'Alexei Navalny, hein, cet opposant au régime de Vladimir Poutine qui a été, retrouvé mort et décédé.
Il y a eu un malaise
accidentellement,
grave.
Un malaise grave. On se comprend, qui est décédé de la main du régime de Vladimir Poutine, c'est ce qui est présumé pour l'instant, dans une colonie, le pénitentiaire, là, très loin dans l'Arctique russe. Et là, après avoir fait toutes sortes de tractions du côté de ses parents, de sa famille et de ses proches pour ravoir le corps, finalement, on a pu l'exposer comme la tradition orthodoxe le veut, donc à cercueil ouvert, et c'est des milliers de personnes.
Couvert de fleurs, d'ailleurs. Un cercueil, il était comme couvert de fleurs. Là.
Exactement, et des milliers de personnes qui se sont déplacées, même si c'était interdit, hein, c'est pour ça que je dis que c'est quel courage, qui se sont déplacées pour rendre un dernier hommage, pour continuer à scander des slogans anti-guerre, anti-Poutine. On parle là de 91 arrestations minimum dans 19 villes différentes, 14 arrestations dans la capitale russe, Moscou. C'est tout un déplacement quand même.
Mais
qui...
la conjointe, je vais dire la veuve maintenant d'Alexei Navalny, avait dit craindre qu'il y ait des arrestations là en parallèle des funérailles.
Voilà, c'est chose faite, Mario, mais il y a des Russes qui ont trouvé le courage quand même de sortir dans la rue, même si c'est interdit, pour rendre un dernier hommage à Alexei Navalny.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.